Exode chapitre 19, versets 1 à 8, et puis encore dans le chapitre 20, avec les 10 commandements. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et puis chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fuit miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Nous étudions la vie de Moïse et c'est sûr, quand on pense à Moïse, on pense immédiatement à la loi de Moïse, aux 10 commandements. Je suis trop jeune, mais dans les années 50, il y a le fameux film sur la vie de Moïse avec Charlton Heston qui a connu un grand succès. Quel est le titre qu'ils ont choisi pour résumer toute la vie de Moïse que raconte ce film ? Eh bien, les 10 commandements, c'est intéressant, mais ça montre aussi à quel point notre société a changé. Imaginons aujourd'hui un film, un grand succès, un film Hollywood sur les 10 commandements. Ça ne passera point. Nous faisons partie de la première génération qui n'est même pas trop d'accord avec les 10 commandements. Il n'y voit qu'une liste d'interdictions contraignantes, Avant, tout le monde était plus ou moins d'accord, même si on avait du mal à les mettre en pratique. Aujourd'hui, on n'est même pas forcément d'accord. Alors, nous allons pencher nos regards sur ce mont Sinaï et ses 10 commandements. Les mardis soirs, nous avons commencé une étude biblique sur le Deutéronome. Alors, on ira plus en détail sur les 10 commandements, chaque commandement, la loi de Moïse. Mais ce matin, nous allons voir ce rendez-vous au mont Sinaï. Nous allons voir que c'était un grand privilège pour Israël, une grande bénédiction pour le monde entier. Alors ce matin, nous allons voir qu'au mont Sinaï, c'était tout d'abord pour s'allier avec Dieu, ensuite pour s'éloigner de Dieu, et enfin pour laisser un seul s'approcher de Dieu. Et en voyant ça, nous allons mieux apprécier, mieux comprendre les 10 commandements. Tout d'abord, ce moment au mont Sinaï, c'était pour s'allier avec Dieu, faire alliance avec Dieu. Dans le chapitre 19, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, Dieu les conduit, Dieu les amène à ce mont Sinaï, et là, Dieu organise une cérémonie formelle, officielle, où Dieu va dire à son peuple, devant témoins, moi, l'Éternel, je vous prends pour mon peuple spécial, mon peuple choisi, et je promets de vous protéger, je promets de vous protéger, de pourvoir à vos besoins, je promets de vous révéler ma volonté, je promets de vous enseigner, je promets de vous encadrer, voilà mes promesses. Et puis le peuple, à eux de répondre, comme nous voyons dans le verset 8 déjà, le peuple répond en disant « Oui, nous aussi, nous promettons de te choisir comme notre Dieu, nous promettons de faire tout ce que tu nous diras, nous promettons de te rester fidèle, de garder tes commandements, de refléter ta sainteté, de t'aimer en retour. » Donc c'était une alliance. Et là, c'est très fort parce que Dieu introduit une nouveauté. Aucune autre religion de l'époque fonctionnait avec une alliance entre Dieu et son peuple. Et au fait, c'est quoi une alliance? Ce qui est intéressant avec une alliance, c'est que dans le sens biblique, c'est à la fois un cadre légal, à la fois une relation d'amour. Ici, on voit le cadre légal, c'est la loi, ce qui est donné, mais on voit aussi tout l'amour et l'intimité que Dieu recherche avec son peuple. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, pour que vous m'appartenez. Un cadre légal et une relation d'amour. Et finalement, la seule chose que nous avons au monde qui ressemble à ça, c'est le mariage. C'est pour ça qu'on parle des alliances dans le mariage. Le mariage est une alliance, il y a un cadre légal et une relation d'amour. Normalement, les deux choses ne vont pas ensemble. Quand vous signez un contrat à la banque, il n'y a pas d'amour, d'intimité. Sauf si votre banquier est un frère, une sœur en Christ, mais ça c'est autre chose. Mais à la banque, il n'y a pas l'intimité, l'amour qu'on recherche à avoir. D'un autre côté, il existe bien des amitiés, certaines amicales, d'autres allant jusqu'à la romance, romantique, mais il n'y a pas un cadre légal. On ne passe pas devant le maire chaque fois qu'on a un nouvel ami. Ce serait compliqué avec Facebook si on devait passer devant le maire chaque fois. On a un nouvel ami. Mais une alliance, c'est les deux à la fois. Et ce qui est beau, ce qui est fort dans une alliance, c'est que le cadre légal protège et fortifie l'amour. L'amour est encore mieux grâce au cadre légal. Et c'est ce qui se passe ici. Une alliance. D'ailleurs, quand on pense aux 10 commandements, on les représente souvent avec les deux tablettes. Hein, tout le monde sait qu'il y a deux tablettes sur lesquelles ont été écrits les 10 commandements. Pourquoi deux tablettes? Alors souvent on a pensé, une tablette c'est les commandements 1 à 5, et puis la deuxième tablette c'est les commandements 6 à 10. Mais certainement, c'est pas ça. Une alliance, il y a toujours deux exemplaires. Quand vous signez à la banque, il y a un exemplaire que le client il garde chez lui, et il y a un exemplaire que la banque garde chez elle. Et ici, les deux tablettes, c'est ça, c'est encore signe d'alliance. Le peuple va garder une copie pour lui, Dieu va garder une copie chez lui, dans sa maison, dans sa tente, dans l'arche. Il se trouve que Dieu a accepté d'habiter au milieu de son peuple et de mettre sa tente, sa maison, au milieu d'eux. Donc ça fait que Moïse peut garder les deux exemplaires. Mais l'un va mettre chez Dieu, l'un le peuple va pouvoir lire et avoir. Et dans une alliance, il y a des privilèges et des obligations. Et souvent, on voit les 10 commandements comme des obligations. Mais il faut les voir avant tout comme des privilèges. Ça faisait partie des privilèges que Dieu offrait à Israël. Et en cela, nous pouvons dire que la loi de Moïse était déjà un don, et c'était une grâce de la part de l'Éternel envers Israël. C'était un privilège. Il va dire, Moïse va dire au peuple plus tard dans Deutéronome chapitre 4, « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons ? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui ?» Il dit, nous, on est des privilégiés, on a une loi qui est bien, qui est merveilleuse, qui est formidable. Quelle autre nation bénéficie d'une telle loi? Et c'est vrai, la loi de Moïse était un privilège, était une grâce, un don de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, les chrétiens, nous nous intéressons à la loi de Moïse. Nous nous intéressons aux 10 commandements. Pourquoi? Ben principalement parce que les 10 commandements révèlent le caractère de Dieu, de notre Dieu, que nous voulons aimer, avec lequel nous voulons faire alliance aussi. Avant de se marier, une femme a tout intérêt de dire « J'aimerais connaître le caractère de mon mari avant de m'engager avec lui. » C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quelles sont ses priorités, est-ce qu'il est bien au fond, est-ce qu'il est aimable. C'est bien de savoir ces choses quand on s'engage à vie avec un conjoint. Eh bien, la loi de Moïse confirme que notre Dieu, il est aimable, il est bien, il est bon, il est pur. Il suffit de regarder les commandements qu'il donne pour le savoir. C'est un Dieu vrai, puisqu'il dit « tu ne porteras pas de faux témoignages ». C'est un Dieu fidèle, puisqu'il dit « tu ne commettras pas d'adultère ». C'est un Dieu vivant, un Dieu auteur de vie, puisqu'il dit « tu ne tueras point ». C'est un Dieu créateur, puisqu'il dit « tu te reposeras un jour en rappelant la création ». Et le but, en lisant ces commandements, c'est de dire « oui, je veux m'allier avec un tel Dieu ». Ce n'est pas un Dieu capricieux, ce n'est pas un Dieu bizarre, c'est un Dieu bon, un Dieu pur, un Dieu saint. Ça se dégage dans sa loi, dans ses 10 commandements. Et puis l'idée qu'Israël, en faisant alliance avec ce Dieu, chacun se prenait mutuellement. L'idée, c'est qu'Israël, en obéissant aux 10 commandements, il montrait au monde qui était leur Dieu. Comment était leur Dieu? Et c'est ce que Dieu souhaite en verset 6, chapitre 19. Voilà, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Je vous donne ma loi, mes commandements, et ainsi... En obéissant à ces choses, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Que faisaient les sacrificateurs? Les sacrificateurs représentaient Dieu auprès du peuple. Alors Israël tout entier représentait Dieu au monde. Et en étant cette nation sainte pour eux, donc Dieu est saint, ils obéissent sa loi, ils montrent par leur sainteté un Dieu saint. D'ailleurs, le 4e commandement que vous connaissez, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Souvent, on pense que ce commandement est une interdiction à des paroles grossières, des jurons, des blasphèmes. Et certainement, c'est inclus dans ce commandement. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Mais l'idée de prendre le nom, c'est le mot, c'est porter aussi, tu ne porteras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel dans ce sens-là. Une femme, elle prend le nom de son mari. Israël, en quelque sorte, ils prenaient le nom de leur Dieu pour témoigner de lui. Et c'est pareil pour nous, les chrétiens. Nous avons pris le nom, en tant que chrétiens, nous avons pris le nom de Christ. Alors, quel témoignage avons-nous en tant que chrétiens? C'est le but. Tu ne prendras point le nom de Christ en vain, si, en tant que chrétien, notre témoignage et ne s'accorde pas avec Jésus-Christ, c'est que nous prenons son nom en vain. Donc, dans cette alliance, c'était un moment fort où Dieu et ce peuple, ils allaient passer un peu comme un mariage, des vœux, des promesses l'un envers l'autre. Ils allaient s'assembler, s'allier. C'est très beau. Mais autant c'était un moment pour s'allier, on voit quand on lit Exode chapitre 19 et chapitre 20, que le mont Sinaï, c'était vous s'éloigner de Dieu. Finalement, Dieu donne cette loi merveilleuse. Dieu fait cette cérémonie d'alliance, mais le résultat, c'est l'éloignement de Dieu. Verset 18, c'est comme ça que termine les 10 commandements. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et encore, verset 21. Pour l'accentuer, le peuple restait dans l'éloignement. Le peuple reste dans l'éloignement. C'est-à-dire cette rencontre avec Dieu, avec ses lois, avec ses standards, avec sa présence, sa voix, ses flammes, eh bien c'est trop. Ça fait trembler, ça fait éloigner. Le peuple se tient dans l'éloignement. C'est le comble. C'était pour rencontrer Dieu, c'était pour s'approcher de lui et le peuple se tient dans l'éloignement. Et si vous connaissez l'histoire d'Israël, vous savez qu'à partir de là commence une longue histoire d'éloignement où le peuple se trouve de plus en plus loin de leur Dieu. Et c'est ça le grand dilemme du mont Sinaï. C'est un moment d'alliance avec un Dieu merveilleux, un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu bon, un Dieu vrai. C'est un moment d'alliance, mais résultat des courses, c'est un moment d'éloignement. Et déjà toute l'atmosphère ici, toute cette conclusion sur l'éloignement va marquer toute une pensée de la Bible sur la loi de Moïse. La loi de Moïse, elle est super, elle est bien, mais elle ne nous rapproche pas de Dieu. Elle nous tient dans l'éloignement. Elle nous oblige à rester en bas alors que Dieu est tout là-haut. Elle montre la grande distance qui est entre nous et Dieu, comme le peuple a vécu là, ce jour-là, au mont Sinaï. Peut-être je peux vous aider avec une illustration. Imaginons que vous prenez la voiture, et puis vous tombez en panne, vous êtes en panne au bord de la route. Quelqu'un s'approche de vous, alors vous allez où? Ben, je voulais aller à Paris. Ah, d'accord, mais peut-être je peux vous aider. Alors, il sort de sa poche une carte postale, une belle carte postale de la ville de Paris. Il dit, ben voilà, c'est Paris. Et vous dites, oui, c'est très beau, c'est là où je vais aller, mais là, je suis en panne. Il dit, ah oui, bon, je peux encore vous aider. Alors, il sort de son sac, il sort une carte et un GPS. Il vous le donne, il dit, voilà, le GPS, c'est très clair. En plus, je peux même entrer les coordonnées. Et là, ça montre que vous êtes à 800 km de Paris. Et vous dites, oui, merci, mais moi, je veux aller à Paris. Et je suis en panne. Et c'est-à-dire plus qu'on vous propose de telles choses, plus vous vous rendez compte que vous êtes loin de Paris. Plus vous restez dans l'éloignement de Paris. Et mont Sinaï, c'est ça. Les 10 commandements, c'est ça. C'est un portrait magnifique de Dieu, comme cette carte postale. Oui, ça, voilà à quoi ressemble Dieu, oui. C'est comme un GPS où on nous donne des instructions, des lois. Mais moralement et spirituellement, nous sommes en panne. C'est ça le problème. Donc on peut nous proposer des listes et des lois et des religions et des conseils. Le cœur reste en panne. Le cœur se sent devant Dieu, le cœur, il est HS, il est en panne. Il sait qu'il ne peut pas avancer plus proche de Dieu. Alors peut-être vous dites, oui, Moïse, bon, il était quand même assez strict, assez sévère, la loi de Moïse, assez carrée. On va plutôt écouter Jésus. Jésus, il est gentil. Oui, c'est vrai que Jésus, un jour, il est monté sur une petite colline, une montagne, Et il a enseigné la loi, sa loi, et on appelle ça notamment le sermon sur la montagne. Ça se trouve en Matthieu chapitre 5 à 7. Et ce sermon sur la montagne, on peut dire en grande partie, c'est un commentaire sur la loi de Moïse, un commentaire sur les 10 commandements. Quand Jésus a enseigné, il n'y avait pas de tonnerre, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de tremblement, il n'y avait pas tout ça. Mais si vous écoutez bien, si vous lisez bien, si vous étudiez bien le sermon sur la montagne que Jésus a donné, là, vous pouvez vous sentir encore plus loin de Dieu qu'était Israël. J'aime bien, apparemment, un pasteur, après avoir lu le sermon sur la montagne, il a dit que Dieu nous délivre tous du sermon sur la montagne. Que Dieu nous délivre tous du sermon sur la montagne. C'est-à-dire, quand Jésus, lui, a prêché sur la loi de Moïse, il a montré que la barre était encore plus haute qu'on le pensait. C'est comme ce GPS, si vous pensez être, ok, je ne suis pas encore arrivé sur Paris, mais je dois être entre Cahors et Limoges, et puis vous sortez le GPS et ça vous dit 600 km, je suis encore plus loin que je pensais. Mais c'est ça la loi de Moïse. C'est ça l'enseignement de Jésus sur la loi de Moïse. Ah, je suis encore plus loin que je n'ai pensé. Et c'est encore plus terrifiant d'entendre les standards que Jésus a exigés en matière d'obéissance et de perfection. Alors, quelle est la solution? Si le mont Sinaï, c'était pour s'allier avec Dieu, et puis le résultat, c'était s'éloigner de Dieu, eh bien, si nous prenons la suite, nous voyons que pour laisser un seul s'approcher de Dieu. Vous avez vu ce que le peuple a demandé après avoir entendu la loi, les 10 commandements, après avoir vu ce spectacle. Ils ont dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Verset 21, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Déjà dans le chapitre 19, Moïse commence à agir comme cette porte-parole. Il va faire plusieurs allers-retours entre Dieu et le peuple pour communiquer. Il est le porte-parole, le médiateur. Mais là, en verset 21, c'est encore plus fort. Le peuple doit rester loin, mais lui, il s'approche. La nuée, toute cette gloire, cette présence, cette sainteté, eh bien, Moïse, il y entre dedans, il s'approche de la nuée. Et c'est à cause de ce que lui va pouvoir faire, il va pouvoir aller entre le peuple et Dieu et leur apporter des paroles. Et nous, nous avons encore mieux. Le Nouveau Testament dit qu'on a un médiateur encore mieux que Moïse. On a cette seule personne, ce seul homme qui puisse s'approcher de Dieu à notre place. Et c'est Jésus. Jésus, il nous a délivrés du serment sur la montagne. Il nous a délivrés du mont Sinaï parce que lui est allé sur une autre montagne, une autre colline, ce que nous allons célébrer cette semaine de Pâques. Il est allé sur une autre colline pour faire face à cette sainteté de Dieu, cette loi de Dieu. Et c'est lui qui est devenu ce paratonnerre, un peu comme vous voyez dans l'image. L'image montre un Moïse musclé, mais la vraie image que donne la Bible, c'est un Christ crucifié. C'est là notre espoir. Tout ce tremblement, toute cette punition, cette menace, défense de s'approcher de la montagne, sinon serait puni de mort. C'était les consignes de Moïse en chapitre 19. Eh bien, Jésus s'est approché de la montagne et il en est mort à notre place. Et ce qui nous permet de pouvoir s'allier avec Dieu, de faire alliance avec Dieu, sans en être éloigné. Vous savez, l'alliance que Dieu a proposée à son peuple dans ce livre d'Exode et dans les livres de Moïse, un peu comme les vœux de mariage, il parle à son peuple, je promets de t'aimer, de te délivrer. Mais dans ces vœux-là, c'était « Je promets de t'aimer et de te livrer si tu m'obéis, si tu gardes mes commandements. » Et le peuple, ils ont répondu « Oui, oui, nous le ferons. » Nous l'avons vu en verset chapitre 19, verset 8. Oui. Ils ont dit oui, mais que valait cette oui? Que valait cette promesse? Les promesses de Dieu, elles étaient parfaites, impeccables, mais cette promesse, cet engagement du peuple, que valait-elle vraiment? Dans les heures et les jours qui vont suivre, ce que nous lisons là, le don de la loi, les 10 commandements, dans les heures et les jours qui vont suivre, la première chose que le peuple va faire, c'est d'enfreindre le premier commandement, sans parler du deuxième et du dixième et un tas d'autres. Mais donc, ils ont dit oui, et la première chose qu'ils ont fait, c'est enfreindre le premier commandement. Que valait leur oui? Que valait leur engagement? Que valait leur promesse? Et nous, si vous partez d'ici en disant, ça y est, j'ai entendu les 10 commandements, maintenant c'est bon, je vais les pratiquer parfaitement. Que vaut notre oui, notre engagement, notre promesse? Combien de commandements allons-nous enfreindre avant la fin même de cette journée? Finalement, notre oui ne vaut rien, notre bonne volonté, nous, ne vaut rien. Alors Dieu dit, ok, vous, votre engagement, votre promesse, votre oui, votre désir ne vaut rien. Donc cette fois-ci, on va faire autrement. Ce que Dieu dit, on va faire autrement. Maintenant, on va refaire une alliance, on va refaire une promesse. Mais là, on va changer les choses un peu. Et Dieu, c'est l'histoire de la Bible. On a l'ancienne alliance, l'Ancien Testament et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Et dans la nouvelle, Dieu dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Moi, je promets de te prendre comme mon peuple. Je promets de t'aimer. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre ses conditions sur l'obéissance à la loi de Moïse, il dit, je promets de t'aimer et de te prendre parce que Jésus, il a obéi à ta place. Parce que Jésus est mort à ta place. Donc là, je peux promettre de t'aimer, de te prendre, de te garder, de t'enseigner. Un point, c'est tout. Vous voyez, c'est une autre alliance, c'est une autre promesse. Et c'est bien meilleur pour nous, parce que notre obéissance, notre oui, notre engagement ne vaut pas grand-chose sans l'aide de Dieu. Alors Dieu a fait autrement, il dit ok, on va pas compter sur ces gens-là, on va compter sur Jésus-Christ, mon Fils. Et lui, il a tout obéi. Vous regardez les 10 commandements, Jésus les a tout obéi. Et puis, il est allé à la croix pour subir les conséquences de notre désobéissance. Si on revient à notre ami en panne sur le bord de la route, on lui a proposé une carte postale de Paris. C'est bien beau, mais ça l'avance pas bien loin. On lui a proposé une carte et un GPS, très utile, mais en panne, ça l'avance pas. De quoi a-t-il besoin? Il a besoin d'un remorqueur, il a besoin d'un dépanneur. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. Il vient, il nous remorque, il nous prend sur lui. Et il nous mène jusqu'au bon port, jusqu'à la destination céleste. Une image m'est venue en tête en pensant à ça. Vous avez peut-être vu un clip vidéo où on voit une voiture qui roule, un conducteur au volant, et puis on fait un zoom en arrière, et finalement la voiture est attachée à un remorqueur et... La voiture ne fait rien, c'est le remorqueur qui fait tout. Mais c'est ça, c'est nous, c'est ça les chrétiens. On avance dans la vie, mais quand on regarde bien, c'est parce que Jésus nous tire, Jésus nous remorque, Jésus nous a dépannés, il est venu dans notre misère et il nous prend. Et c'est lui le moteur, c'est lui la puissance qui nous mène jusqu'au ciel. Quand on arrive, si notre ami arrive à Paris grâce au remorqueur, il dit pas « Voilà, je suis arrivé grâce à mon super GPS ». Non, il dit « Je suis arrivé parce qu'on m'a secouru, on m'a dépanné, on m'a remorqué ». Et c'est ça la différence entre l'évangile et les religions. Les religions ne peuvent que vous donner un GPS ou une carte postale en disant « Débrouillez-vous ». Et puis on essaie d'encourager les gens en disant « Voilà, je vais arriver grâce à… » Mais l'évangile dit « Non ». La bonne nouvelle, c'est que Christ, il vous porte, il vous prend avec lui sur la montagne jusqu'en haut de la présence de Dieu. Alors quand on arrive, on ne dit pas « je suis arrivé grâce à moi », on dit « je suis arrivé grâce à Jésus-Christ ». Puis une petite application pour terminer. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on balance le GPS par la fenêtre? Non. Même si notre voiture a été en panne et remorquée gratuitement par le secouriste Jésus-Christ, on n'a pas besoin de balancer le GPS par la fenêtre parce que le GPS, c'est pratique, ça sert, ça indique notre progrès. Ça indique la distance que nous avons encore à parcourir, ça donne des repères. Et c'est ça la loi de Moïse, les 10 commandements pour nous les chrétiens. C'est pas le moteur, c'est pas notre passeport pour aller au ciel, mais ça indique notre progrès dans la vie chrétienne, ça nous donne un but vers quoi tendre, sachant que le moteur dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est Jésus-Christ qui nous transforme. Alors, nous pouvons arriver à bon port, nous pouvons arriver jusqu'à dans la présence de Dieu, nous pouvons faire alliance avec lui grâce à Jésus, grâce à son obéissance aux 10 commandements. Est-ce que vous voyez la différence entre ce que vous propose le monde, où il faut se faire remarquer par ses efforts, par ses œuvres? Si on regarde bien les 10 commandements, les autres religions reprennent à peu près les commandements. À quelques différences près, toutes les religions au monde disent « oui, il ne faut pas tuer, c'est vrai, oui, il ne faut pas commettre l'adultère, oui, c'est vrai, oui, il ne faut pas voler ». En ça, les religions ne sont pas si différentes que les 10 commandements. Mais la grande différence de la Bible, c'est qu'elle fait le constat, le bilan, que nous ne pouvons pas les obéir. Elle nous offre quelqu'un qui l'a fait à notre place et qui est mort à notre place. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous l'avez saisi? Est-ce que vous avez appelé le dépanneur, le remorqueur pour vous secourir? Est-ce que vous avez remarqué que vous étiez en panne spirituelle? Eh bien, Jésus est encore prêt à venir vous aider, vous sauver, vous amener vivre avec lui éternellement. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons dans la prière.